J'étais japonaise. À 2 ans et demi, dans la province du Kansai, être japonaise consistait à vivre au cœur de la beauté et de l'adoration. Être japonaise consistait à s'empiffrer des fleurs exagérément odorantes du jardin mouillé de pluie, à s'asseoir au bord de l'étang de pierre, à regarder au loin les montagnes grandes comme l'intérieur de sa poitrine, à prolonger en son cœur le chant mystique du vendeur de patates douces qui traversait le quartier à la tombée du soir. À 2 ans et demi, être japonaise signifiait être l'élu de Nishio-san. À tout instant, si je lui demandais, elle abandonnait son activité pour me prendre dans ses bras, me dorloter, me chanter des chansons où il était question de chatons ou de cerisiers en fleurs. Elle était toujours prête à me raconter ses histoires de corps coupés en morceaux qui m'émerveillaient. Ou alors la légende de telle ou telle sorcière qui cuisait les gens dans un chaudron pour en faire de la soupe. Ces contes adorables me ravissaient jusqu'à l'hébétude. Elle s'asseyait et me berçait comme une poupée. Je prenais un air de souffrance sans autre motif que mon désir d'être consolée. Nishio-san me consolait longuement de mes chagrins inexistants, jouant le jeu, me plaignant avec un art consommé. Puis elle suivait d'un doigt délicat le dessin de mes traits et en vantait la beauté qu'elle disait extrême. Elle s'exaltait de ma bouche, de mon front, de mes joues, de mes yeux et concluait qu'elle n'avait jamais vu une déesse au visage aussi admirable. C'était une bonne personne. Et je restais dans ses bras inlassablement. Et j'y serais restée toujours, pâmée de son idolâtrie. Et elle se pâmait de m'idolâtrer ainsi, prouvant de la sorte la justesse et l'excellence de ma divinité. À 2 ans et demi, il eût fallu être idiote pour ne pas être japonaise. Ce n'était pas un hasard si j'avais révélé plus tôt ma connaissance de la langue nippone que de la langue maternelle. Le culte de ma personne avait ses exigences linguistiques. J'avais besoin d'un idiome pour communiquer avec mes fidèles. Ces derniers n'étaient pas très nombreux, mais ils me suffisaient par l'intensité de leur foi et par l'importance de leur place dans mon univers. C'était Nishio-san, les Futago et les passants. Quand je me promenais dans la rue en donnant la main à la principale prêtresse de mon adoration, j'attendais avec sérénité les acclamations des badauds. Je savais qu'ils ne manqueraient jamais de se récrier sur mes charmes. Cependant, cette religion ne me plaisait jamais autant qu'entre les 4 murs du jardin. Ce dernier était mon temple. Une portion de terrain plantée de fleurs et d'arbres et entourée d'une enceinte, on n'a rien inventé de mieux pour réconcilier avec l'univers. Le jardin de la maison était nippon, ce qui en faisait un jardin pléonastique. Il n'était pas zen, mais son étang de pierre, sa sobriété et le choix de sa toison disaient le pays qui, plus religieusement que les autres, a défini le jardin. L'aire géographique de la croyance en moi atteignait son plus haut degré de densité dans le jardin. Les murs élevés et chapeautés de tuiles japonaises qui le cloîtraient me dérobaient au regard des laïcs et prouvaient que nous étions en un sanctuaire. Quand Dieu a besoin d'un lieu pour symboliser le bonheur terrestre, il n'opte ni pour l'île déserte, ni pour la plage de sable fin, ni pour le champ de blé mûr, ni pour l'alpage verdoyant. Il élit le jardin. Je partageais son opinion. Il n'y a pas meilleur territoire pour régner. Fiefée du jardin, j'avais pour sujet des plantes qui, sur mon ordre, s'épanouissaient à vue d'œil. C'était le premier printemps de mon existence et je n'imaginais pas que cette adolescence végétale connaîtrait un apogée suivi d'un déclin. Un soir, j'avais dit à une tige surmontée d'un bouton « Fleurie !» Le lendemain, c'était devenu une pivoine blanche en pleine déflagration. Ah, pas de doute, j'avais des pouvoirs. J'en parlais à Nishio-san qui ne démentit pas. Depuis la naissance de ma mémoire, en février, le monde n'avait cessé d'éclore. La nature s'associait à mon avènement. Chaque jour, le jardin était plus luxuriant que la veille. Une fleur ne se fanait que pour renaître plus belle un peu plus loin. Comme les gens devaient m'être reconnaissants. Comme leur vie devait être triste avant moi. Car c'était moi qui leur avais apporté ces merveilles innombrables. Quoi de plus compréhensible que leur adoration? Pourtant, il demeurait un problème logique dans cette apologétique, Kashima-san. Elle ne croyait pas en moi. C'était l'unique japonaise qui n'acceptait pas la religion nouvelle. Elle me détestait. Seuls les grammairiens sont assez naïfs pour penser que l'exception confirme la règle. Je ne l'étais pas, et le cas de Kashima-san me perturbait. Ainsi, quand j'allais prendre mon deuxième repas à la cuisine, elle ne me laissait pas manger dans son assiette. Stupéfiée par son impertinence, j'avais remis ma main dans sa nourriture. Cela m'avait valu une gifle. Estomaquée, j'allais pleurer chez Nishio-san, espérant qu'elle châtierait l'impie. Il n'en fut rien. « Tu trouves ça normal ?» lui dis-je avec indignation. « C'est Kashima-san, elle est comme ça. » Je me demandais si cette réponse était acceptable. Avait-on le droit de me frapper pour cette seule raison qu'on était comme ça ? C'était un peu fort. Il en coûterait à l'irréductible de se dérober à mon culte. J'ordonnais que son jardin ne fleurisse pas. Cela n'eut pas l'air de l'émouvoir. J'en conclus qu'elle était indifférente au charme de la botanique. En vérité, elle n'avait pas de jardin. J'optai alors pour une attitude plus charitable et décidai de la séduire. J'allai au-devant d'elle avec un sourire magnanime et lui tendis la main, tel Dieu à Adam sur le plafond de la chapelle Sixtine. Elle se détourna. Kashima-san me refusait. Elle me niait. De même qu'il y a l'antéchrist, elle était l'antémoi. Je me pris pour elle d'une pitié profonde. Comme ce devait être sinistre de ne pas m'adorer. Cela se voyait, Nishio-san et mes autres fidèles rayonnaient de bonheur, car il était bon pour eux de m'aimer. Kashima-san ne se laissait pas aller à ce doux besoin. Cela se lisait sur les beaux traits de son visage, sur son expression toute de dureté et de refus. Je tournai autour d'elle en l'observant, cherchant le motif de son peu d'inclination pour moi. Jamais je n'eusse imaginé que la cause pût être en moi, si forte était ma conviction d'être, des pieds à la tête, l'indiscutable gemme de la planète. Si l'aristocratique gouvernante ne m'aimait pas, c'est qu'elle avait un problème. Je le trouvais. À force de scruter Kashima-san, je vis qu'elle souffrait de la maladie de se retenir. Chaque fois qu'il y avait une occasion de se réjouir, de se régaler, de s'extasier ou de s'amuser, la bouche de la noble dame se serrait, ses lèvres devenaient rigides. Elle se retenait. C'était comme si les plaisirs étaient indignes d'elle, comme si la joie lui était une abdication. Je me livrai à quelques expériences scientifiques. J'apportai à Kashima-san le plus beau camélia du jardin en précisant que je l'avais cueilli pour elle. Bouche plissée, merci sec. Je demandai à Nishio-san de lui préparer son plat préféré. Elle prépara un chawan mushi sublime qui fut mangé du bout des lèvres et commenté de silence. Apercevant un arc-en-ciel, je courus appeler Kashima-san pour qu'elle l'admire. Elle haussa les épaules. Je décidai alors, dans ma générosité, de lui donner à voir le plus beau spectacle qui se put concevoir. Je revêtis la tenue que Nishio-san m'avait offerte. Un petit kimono de soie rose, orné de nénuphars, avec son large obi rouge, les jetas laqués et le parasol de papier pourpre décoré d'une migration de grues blanches. Je me barbouillai la bouche du rouge à lèvres de ma mère et allai me contempler dans le miroir. Pas de doute, j'étais magnifique. Personne ne résisterait à une telle apparition. J'allais d'abord me faire admirer par mes fidèles les plus loyaux, qui poussèrent les cris auxquels je m'attendais. Virevoltant comme le plus convoité des papillons, j'offris ensuite ma superbe au jardin, sous forme d'une danse frénétique et bondissante. J'en profitais pour agrémenter ma mise d'une pivoine géante dont je me coiffais, tel un chapeau cinabre. Ainsi parée, je me montrais à Kashima-san. Elle n'eut aucune réaction. Cela me confirma dans mon diagnostic. Elle se retenait. Sinon, comment eût-elle pu ne pas s'exclamer à ma vue ? Et comme Dieu pour le pécheur, je conçus une commisération absolue pour elle. Pauvre Kashima-san. Si j'avais su que la prière existait, j'eusse prié pour elle. Mais je ne voyais aucun moyen d'intégrer cette gouvernante aporétique dans ma vision du monde, et cela me contrariait. Je découvrais les limites de mon pouvoir.